Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Estelle Midi, comme chaque jour, du lundi au vendredi, sur RMC, à la radio, RMC Story, à la télévision, canal 23 de la TNT. On est aujourd'hui avec vous, bien sûr, grâce au 3216 et grâce à l'appli RMC. L'appli RMC sur laquelle vous écrivez tous vos messages. Et qui lit ces messages? Eh bien, c'est bien sûr Rémi Barré. Salut Rémi.
Salut Estelle et bonjour à tous.
Ceinture et bretelles, surtout, du côté de Perico Légas, journaliste à Marianne, qui est aujourd'hui avec nous avec cette très belle paire de bretelles, Perico.
Magnifique, bien sûr, mais mes valeurs restent intactes. Et...
Mais je sais.
Convictions.
J'aime beaucoup cette petite tenue d'été.
J'étais sûr que ça allait vous interpeller.
Mais écoutez, tout me plaît.
Il y en aura d'autres.
Nous sommes également avec l'ancienne avocate et présidente de l'association Famille Libre, Yael Mellul. Bonjour Yael.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et puis le journaliste Daniel Riolo. Salut Daniel, ça va?
Bonjour tout le monde. Mais je constate que non, il n'a pas la ceinture, il n'a que les bretelles.
Il n'a que les bretelles.
C'est très grave, vous savez, si on fait une ceinture à bretelles.
Ah bah oui.
Parce qu'on ne peut pas faire confiance ensuite à quelqu'un qui n'a pas confiance en son pantalon.
Oui, c'est vrai, je n'avais pas réfléchi à ça, mais vous avez entièrement raison. Au sommaire, aujourd'hui, plus de 1000 cas d'atteinte à la laïcité ces deux derniers mois dans les établissements scolaires en France. Doit-on exclure les élèves qui portent atteinte aux valeurs de la République? On en débat avec vous au 32-16. Midi et demi, scandale en Bretagne. Des menhirs détruits à Carnac pour construire un magasin de bricolage. Est-ce que ça vous choque? À 13h, la multiplication des règlements de compte et des agressions, notamment dans les villes moyennes. Sommes-nous de plus en plus violents? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, 121 000 euros d'amende pour un excès de vitesse en Finlande. Fixer le montant des amendes en fonction des revenus des automobilistes, bonne ou mauvaise idée. Et puis à 14h30, RMC s'engage pour vous. On va tenter d'aider des parents qui n'arrivent pas à scolariser leur enfant autiste.
RMC, Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on démarre tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour et ce sont les chiffres des atteintes à la laïcité à l'école dévoilés aujourd'hui. Plus de 1000 cas ont été recensés sur les deux derniers mois, en avril et en mai, avec notamment, Rémi, de nombreux cas de port de tenue à visée religieuse.
Oui, port de tenue ou de signes religieux, à lui seul, il représente ce port un tiers des incidents signalés selon les chiffres de l'Éducation nationale. 37% exactement. Les autres atteintes à la laïcité touchent au refus d'activité scolaire dans 13% des cas. Ce peut être, par exemple, la pratique de la natation, le refus de la pratique de la natation pour des filles. Viennent ensuite les revendications communautaires, les suspicions de prosélytisme et la contestation d'enseignement. 5% des incidents signalés concernent le refus de valeurs républicaines et 3% des provocations verbales. 625 signalements au total qu'il faut comparer aux 12 800 000 élèves scolarisés actuellement en France. Il n'en reste pas moins que 625 cas signalés en avril. C'est une hausse de 25% par rapport au mois précédent et qu'il ne s'agit que de ce qui est officiellement rapporté. En mars dernier, une enquête effectuée par le syndicat SNPDEN-UNSA auprès de 1000 chefs d'établissements de collèges et lycées indiquait que le port de tenues à connotation religieuse, les contestations d'enseignement ou les difficultés rencontrées en sortie scolaire ne faisaient pas systématiquement l'objet de signalements.
Alors, faut-il exclure directement les élèves qui portent atteinte aux valeurs de la République, Perico Légas?
Alors, la laïcité n'est pas un code, c'est pas une mœurs, c'est la loi de la République française, du comportement que l'on doit avoir à l'intérieur de l'enceinte scolaire. C'est bon pour tout le monde et ça protège les religions. Mais ça protège aussi les gens qui n'ont pas à subir d'influence confessionnelle dans le cadre scolaire. Il y a un seul problème. Et ces débats-là ne sont jamais complétés par la phrase fatidique. Le chef d'établissement qui a exclu. Donc oui, il faut exclure, bien sûr.
Ah.
Et le problème, c'est qu'on aurait dû exclure depuis le début. Et c'est parce que la République
en fait,
a été...
En fait, tu exclus, mais après avoir discuté beaucoup, quoi.
Non, même pas ça. Alors, attendez, est-ce qu'il y a récidive ou pas? Première alerte, alors. Mais récidive, là, ça veut dire que la personne ouvertement dit « Je m'assois sur les lois de la République et de la France et je vous imposerai ma façon de voir les choses ». Le problème n'est pas là, c'est qu'un chef d'établissement a l'obligation de recaser l'enfant. Toute exclusion, c'est la loi, pour dans tous les cas de figure.
Évidemment.
Un enfant doit être recasé. Donc, comme il y a une marge de recasement... Qui va prendre un élève dont on dit voilà il respecte pas les lois de la laïcité, ça fait trois fois qu'il réunit, donc le problème il est quasiment insoluble.
Qui va reprendre, peux-tu préciser?
C'est-à-dire que si l'enfant n'est pas recasé dans un autre établissement,
quel établissement
le garde? Tu le gardes.
Excuse-moi. À qui ça va causer un problème si tu l'exclus qu'il est pas recasé?
Ah, tu n'as pas le droit.
S'il a moins de 16 ans, t'as pas le droit.
Non, mais permettez-moi.
Je suis d'accord.
Vous n'avez pas le droit. Je veux poser une question. À qui ça va poser un problème si tu l'exclus et qu'il ne retrouve pas d'établissement?
Bah, la société. Mais parce qu'il va aller où, en fait?
Non, mais t'as raison.
Excusez-moi.
Je le ferai.
Pardon d'insister. Je vous pose une question.
La réponse est à la société.
À qui ça va poser un problème?
Ça va poser à personne.
À ses parents. Ne sont pas foutus de comprendre que les lois de la République, c'est comme ça que ça fonctionne, et que l'enfant, il faut pas qu'il vienne habillé de cette façon-là. Pardon, mais est-ce que la société a le droit
de faire ce gamin qui est dans la rue
sur la moralité de ses parents?
Mais tu en fais quoi de ce gamin?
Ils sont prêts à ce que l'enfant.
Tu en fais quoi de ce gamin? Une fois qu'il est à la rue, ce gamin, désœuvré
sans ça que la loi.
Encore une fois, je te dis, si ses parents ne sont pas foutus de comprendre que l'enfant risque d'être à la rue,
ça c'est le principe.
Qu'est-ce que tu veux faire, Rémi?
Ça c'est le principe. Mais pour autant, la loi dit que tu dois le recaser.
La responsabilité des gens et des parents, on a le droit de la mettre en avant ou pas?
Il faut la mettre en avant. Il faut la mettre en avant.
Je voudrais entendre Yael Mellul sur ce sujet, bon. Allez-y.
Alors moi je suis totalement opposée à l'exclusion de ces élèves, ah bon, parce que de mon point de vue ça aurait des conséquences absolument mais catastrophiques d'un point de vue stigmatisation de ces jeunes-là.
Ils seraient
exposés en plus à de la radicalisation, et je pense qu'on prend le problème à l'envers. C'est que là on punit en fait quelque part un mineur en revanche on peut demander à notre ministre de l'Éducation de faire preuve d'un petit peu plus de courage que d'émettre une circulaire où il laissait à la libre appréciation des chefs d'établissement le fait de blâmer, de faire des avertissements, de punir. Il a la capacité juridique d'interdire ce vêtement. Qu'il l'interdise, point. Voilà.
Aujourd'hui,
il n'y a plus de débat.
Il y a une loi de 2004 qui est
très claire. Mais l'abaya, c'est flou, par exemple.
Non, parce qu'elle est totalement imprécise. Et justement, l'abaya, on le voit, force est de constater qu'elle passe au travers de cette loi. Puisque les vêtements ne sont pas définis. Donc, à charge pour le ministre de l'Éducation de le définir. Alors, ça va bien de recevoir les chefs d'établissement, de les rassurer. Ils n'ont pas besoin d'être rassurés aujourd'hui. Ils sont absolument terrorisés. Et en plus, les chiffres sont sous-estimés parce qu'ils ont même peur de les signaler.
4 sur 10 ont peur de les signaler.
Ils ont peur. Donc, il y a un climat de terreur.
Qu'est-ce que tu dis, en fait?
Je dis qu'en réalité, on prend les choses à l'envers. Il s'agit juste d'interdire. Il faut interdire.
Respecter la loi.
Il faut respecter la loi. Le principe. Je termine. Le principe, c'est que le principe de la laïcité, il s'impose aux établissements.
Oui.
Voilà. En fait, ça, c'est le principe de base. Le ministre de l'Éducation, il a délégué des pouvoirs aux chefs d'établissement.
C'est ce que Jospin fait en 89.
Et c'est eux qui s'en prennent plein la gueule, les malheureux.
Oui, mais Jospin a fait ça en 89.
Ils osent pas. Ils ont peur. C'est pas aux chefs d'établissement de le faire. C'est au ministre de l'Éducation.
Tout ce que vous dites est juste. Ça doit découler d'une loi. On peut pas laisser les chefs d'établissement décider parce qu'en plus, après, ils sont menacés, harcelés. Les profs qui font des remarques sont menacés. On a peur. Le fantasme et la peur logique, Samuel Paty et tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais pardonne-moi, le prends pas mal, mais tu brasses du vent. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois que tu auras la loi qui doit émaner du législateur et qui va donc s'appliquer à tout le monde, on va revenir exactement à la question qu'on se posait il y a deux minutes. Qu'est-ce que tu fais?
L'enfant.
Si l'enfant se présente à nouveau avec cette tenue.
Tu le vires parce que c'est contre la loi.
Tu fais respecter la loi. Donc ça veut dire quoi? C'est que la loi n'a plus aucune valeur dans ce pays.
Laissez-moi terminer et continuer.
Personne ne vient se voiler à l'école, par exemple.
Tu fais respecter la loi, donc tu exclus l'enfant. Qu'est-ce que tu fais de l'enfant?
Voilà. Le problème sera le même.
On revient exactement à la question d'il y a deux minutes. En fait, c'est pour ça que je vous dis, vous brassez du vent. Tu vas faire la loi. La loi, moi, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'elle existe. Il faut que l'État s'empare de ce sujet parce que ça traîne depuis les années 80. On a eu toutes les étapes depuis les années 80, depuis l'affaire de Creil. En 1991, je suis surveillant dans un collège, dans un quartier sensible à Champigny-sur-Marne. Mmh. Déjà, à l'époque, je note tout ça. Les remarques, cet autre surveillant de confession juive qui se faisait insulter et où l'antisémitisme était très présent, l'intrisme religieux était là déjà, mais ça fait plus de 20 ans que tout ça existe. On n'avance pas, on ne veut pas parce qu'il y a des bagarres politiques, récupération du RN, on a tellement peur du RN que dès qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils font ce genre de remarques, immédiatement... On ne doit pas écouter.
D'accord, ça
de l'autre côté,
constat,
tu as l'extrême gauche qui fait du clientélisme.
Mais d'accord, et qu'est-ce qu'on fait?
Donc,
mais alors, il faut du courage politique.
Non, la question est-ce qu'on exclut ou pas?
Tu as le courage politique que la personne se présente et que tu l'exclus. Vous venez de me dire que ça n'est pas possible.
Okay, mais si c'est possible.
De l'école.
Alors, non, qu'est-ce que tu fais?
Puisque les gamines, elles enlèvent le voile. D'accord. Elles enlèvent le voile, mais elles gardent la abaya. Eh ben, qu'elles enlèvent le voile et la abaya. Le voile, elles l'enlèvent pourquoi?
Donc, la question,
qu'est-ce qu'on fait du récidiviste?
La seule solution, c'est de ne pas avoir peur de l'intransigeance. Et effectivement, comme vous dites, une fois qu'il y a une loi,
il faut la loi.
Exclus, oui, voilà. Il faut une loi et tu exclus.
L'application de la loi.
Et je reviens à la question que je posais tout à l'heure. À qui ça va poser un problème? L'enfant, tu le convoques. Tu ne reviendras plus à l'école. Tu n'iras plus à l'école. Ok, t'es pas en âge de comprendre réellement ce que ça veut dire. Les parents, est-ce que vous savez que votre enfant va être déscolarisé? Est-ce que vous prenez cette responsabilité?
Tu oui. peux pas faire non. ça, Daniel,
ah, parce que parce alors, que donc on ne respectera pas la loi.
Mais parce que
ça sert à rien de faire une loi. Non,
Daniel,
c'est pour ça que je dis vous brassez du vent.
Daniel, est-ce qu'on peut juste en placer une?
Merci.
Parce que juste la loi, par exemple, sur le voile, et Gaëlle l'a dit, aujourd'hui, tu as très peu de filles qui viennent voiler à l'école. On est d'accord? Parce qu'il y a cette
elle
loi.
Elle ne vient pas, elle l'enlève.
Elle l'enlève, et parce que c'est clair. Aujourd'hui, il y a un flou sur quoi? Il y a un flou sur l'abaya. Tout simplement parce que certains vont te dire c'est une robe traditionnelle, d'autres vont te dire c'est une robe religieuse, etc. Donc il y a un flou. Quand une fille vient avec une abaya mais avec une ceinture, est-ce que c'est une robe, est-ce que c'est une abaya? Bref, il y a un vrai flou là-dessus. Si tu légifères sur l'abaya, ce sera comme pour le voile, c'est-à-dire que
absolument.
Les jeunes filles ne viendront
absolument.
Plus avec l'abaya. Ben, pourquoi sans mal sur le voile? Parce qu'il y a une loi sur le voile.
Tu es si sûr que ça que la loi ne sera pas respectée? Elle est respectée sur le voile.
Vous êtes sûr? J'ai envie de me.
Alors, le problème, c'est quand elle n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient l'interdiction pour un chef d'établissement de ne pas de caser? Voilà, c'est tout.
Mais ce sera plus.
Et si on dit, ben tant pis, maintenant c'est terminé, cette protection est terminée.
Ce n'est pas au chef d'établissement d'avoir cette responsabilité-là. Elle est beaucoup trop lourde pour eux.
C'est pas
la loi. C'est pas la loi.
Mais qui va la représenter quand l'enfant se présentera devant l'établissement?
Mais c'est pas la même chose aujourd'hui que un chef d'établissement il brandisse une circulaire en disant oui je dois vous rencontrer, on doit négocier et non je suis désolée, la loi l'interdit. Donc vous l'enlevez avant d'entrer dans l'établissement.
Mais moi je veux
point
bien
bas.
Qu'il y ait une loi, j'ai
aujourd'hui,
aucun problème.
C'est parce
qu'on
c'est
qu'est-ce qu'on fait du récidiviste?
C'est bien
qu'on
parce qu'il y a un flou juridique. Il y a un flou juridique et c'est gamin. Bah oui.
Si vous êtes si sûr de ça.
Mais il n'y en a pas sur le voile, Daniel. Donc là en même temps là sur le Rémi rappelez ces chiffres. Il y a l'abaya par exemple, là ça devient un vrai souci en tout cas pour les chefs d'établissement parce que c'est flou.
Exactement.
Aujourd'hui le voile n'est pas un souci, il n'y a plus
c'est
de voile.
C'est une faille juridique.
Si, si tu légifères sur l'abaya,
ah, si la
on
solution
peut se dire,
c'est
même
si la solution c'est... est aussi simple que cela,
mais parce que
j'ai tellement
l'espérer.
Envie de
Daniel...
vous croire alors que selon moi le problème est bien plus profond parce qu'on est en plein évidemment. Séparatisme dans notre société qui est de plus en plus prononcé, mais j'ai vraiment envie de vous croire, j'ai envie vraiment de croire que ça va limiter ces atteintes à la laïcité.
Alors, on va poser la question à notre invité sur ce débat qui s'appelle Yanis Roder. Il est prof
Yanis.
D'histoire et membre du Conseil des sages de la laïcité. Bonjour Yanis Roder.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un débat enflammé, clivant sur ce plateau. Et effectivement, la question, elle est simple. Quand il y a une atteinte à la laïcité, est-ce qu'on doit aujourd'hui exclure les élèves, être plus ferme parce qu'on sait que souvent il y a beaucoup de rendez-vous avec les parents et que les chefs d'établissement n'osent pas forcément exclure ou même ne le peuvent pas?
Alors, il y a des procédures qui ont été clarifiées par la circulaire du ministre du 9 novembre 2022 et qui s'appuie notamment sur la circulaire précédente du 18 mai 2004. Donc il faut suivre bien sûr ces procédures qui demandent un dialogue, mais un dialogue, c'est-à-dire faire comprendre à l'élève qu'elle ne peut pas ou qu'il ne peut pas porter ce signe sensible religieux, parce que la circulaire du 18 mai 2004, elle est très claire. Elle dit que le port qui amène à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse est proscrit. Voilà, c'est tout. Donc, à partir du moment où on applique la loi de 2004, et dont la circulaire du 18 mai 2004 est la mise en application, eh bien, il y a tout à fait possibilité d'interdire quel que soit tout signe religieux, quel qu'il soit. Et je me permets, puisque j'entendais votre débat, je pense qu'il ne faut pas faire une nouvelle loi qui viserait l'abaya, parce que d'abord vous définissez l'abaya, ça va être compliqué, et puis après c'est la porte ouverte à toutes les listes que vous voulez. Et
on va pas faire
loi. Voilà. Alors que la loi de 2004 le dit très clairement, cette loi est faite pour s'adapter à l'apparition de tout nouveau signe. Et c'est vrai.
Oui, mais alors dans ces cas-là, on autorise les jeunes filles à venir en abaya à l'école alors ?
Ben non, parce qu'à partir du moment où on considère, le chef d'établissement est amené à considérer que la jeune fille qui porte son abaya se fait immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse. C'est tout. Qui porte les abayas aujourd'hui ? Voilà,
mais le chef d'établissement sera menacé, on mettra des banderoles, on mettra des banderoles en disant qu'il est islamophobe, parce que n'oublions pas, il y a quelque chose qu'il faut quand même évoquer, c'est la récupération politique.
Ouais, mais s'il y a deux jeunes filles,
tout ce qui est NUPS et affiliés ne sont pas sur cette ligne-là et font de la récupération politique à ce niveau et du clientélisme pour que ces gens-là votent ensuite pour eux. Tout ça, c'est une réalité qu'il faut pas oublier.
Et si tu as deux jeunes filles qui arrivent voilées, que le chef d'établissement leur dit, c'est la loi sur la laïcité de 2004, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que tu crois qu'il va lui arriver? Exactement la même chose. Il sera accusé d'islamophobie. Oui. Il sera accusé. Donc, bien sûr, ami. Donc peu importe.
Dans tous les cas, il sera accusé.
Donc, on applique la loi, c'est tout.
Comment on fait, Yanis Roder, si on exclut un élève, on est obligé de lui trouver un autre établissement. Donc en fait, on déplace le problème. Finalement, on ne règle rien.
Non, alors. Il y a peu de conseils de discipline à la suite de port de signes ostensibles religieux. C'est très réduit, il y en a très peu. Quand on déplace, de toute façon, quand vous faites un conseil de discipline, quelle que soit la raison, pour fait violent ou autre, vous déplacez évidemment le problème. Mais vous coupez l'élève aussi de sa sociabilité, vous coupez aussi l'élève peut-être d'éventuelles pressions auxquelles il ou elle est soumise. Donc c'est un nouvel environnement, c'est un nouveau contexte. Donc vous le déplacez de fait, mais en même temps, vous déplacez aussi l'univers mental de l'élève. Ça peut changer des choses.
Déjà qu'on a du mal à le faire dans le cadre du harcèlement.
Oui, j'ai une question pour Yanis. Bonjour Yanis. Vous dites que une loi n'est pas nécessaire, mais force est de constater que avec la loi de 2004, les circulaires qu'il y a eu dernièrement du ministère de l'Éducation, ça ne suffit pas, puisque les tenues ne sont pas définies. On parle au terme de la loi de signes et de tenues qui montrent l'appartenance religieuse. Et à partir du moment où cette loi n'est pas définie, elle ne définit pas explicitement les tenues religieuses, eh ben justement, ça permet à des vêtements
elle
comme la abaya,
à l'appréciation du chef d'établissement.
Et en plus, laisser à l'appréciation du chef d'établissement, ça crée un espèce d'espace, un vide, qui autorise justement le port de cette abaya. Donc on est quand même face à un vide juridique,
un flou
juridique plutôt, absolument, non, flou juridique, et c'est un problème tout de même.
Non, je ne crois pas, on sait très bien que l'abaya qui vient du Moyen-Orient est portée communément au Moyen-Orient, mais on sait très bien aussi qu'elle a été vampirisée par les islamistes qui s'en servent comme un outil de reconnaissance et de contrôle du corps des femmes. Donc on le sait, à partir du moment où la circulaire dit que tout port de signe qui amène à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, c'est clair. Donc on interdit, c'est tout. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut prendre ses responsabilités. Le problème, si vous voulez, pour les chefs d'établissement, c'est qu'effectivement, c'est compliqué. Un de vos invités l'a dit. Ouais. C'est lui qui prend la responsabilité. Et c'est lui qui est soumis sur le terrain à cette responsabilité. Mmh. Voilà,
et c'est puis souvent, ça. Il ne les prend pas parce que pas de vagues et parce qu'il ne veut pas avoir d'ennuis. Et voilà, on a eu énormément de témoignages et on en aura encore dans quelques instants sur RMC de profs, de chefs d'établissement qui disent qu'ils préfèrent en fait se taire parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problèmes. Tout ça. Simplement, donc on ferme les yeux et ça donne pas de vagues.
Mais la seule solution, je suis désolé, une démocratie a également le droit d'être forte. La seule solution, c'est l'intransigeance. Vous excluez et on ne se soucie pas de savoir s'il doit être casé. Les parents doivent comprendre. Si les parents comprennent pas, l'enfant est déscolarisé.
On peut pas faire ça,
Daniel,
si
on peut pas faire ça, on n'avancera jamais. Bon, voilà. Notre démocratie sera foulée aux pieds en permanence parce que nous ne sommes pas forts et nous ne voulons pas faire respecter ni nos règles ni nos valeurs. Et donc on se fera en permanence marcher sur la tronche. C'est comme ça. Vous pouvez tourner en rond avec vos lois, vos bricolages. À partir du moment où tu ne peux pas faire appliquer, puisque
appliquée celle de 2004. Pas quand c'est flou, voilà.
Mais tu n'appliques rien du tout. Les cours d'histoire, qu'on ne peut plus faire. Il y en a à l'appel.
Il y a 12 millions d'élèves.
D'accord. Et ben alors comme on exagère à chaque fois,
les chiffres officiels, c'est un tiers de la réalité.
On recule.
Les chiffres que Rémi a donnés, c'est un tiers de la réalité.
Bien sûr,
parce que deux tiers ne sont pas signalés.
Donc ça fait 1500 cas sur 12 millions d'élèves.
Bon, on va continuer ce débat.
1500
cas de trop. Mais un cas, c'est de trop.
On est d'accord. Okay. Mais il faut quand même relativiser.
Yannis Roger, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur ce débat. Il y a beaucoup de profs qui nous appellent au 3216 pour témoigner, pour nous raconter ce qu'ils vivent au quotidien dans leurs établissements scolaires. Donc, on va continuer ce débat dans un instant sur RMC. Toujours cette question, faut-il exclure les élèves qui portent atteinte aux valeurs de la République ? On vous attend au 3216 et sur l'appli RMC pour nous donner vos avis. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi et demi sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi avec aujourd'hui Rémi Barré, Perry Collégas, Yael Mellul et Daniel Riolo. On parle des atteintes à la laïcité à l'école, plus de 1000 cas recensés sur les deux derniers mois et on se demande dans Estelle Midi s'il faut exclure les élèves qui portent atteinte aux valeurs de la République et vous êtes très nombreux à nous avoir écrit sur l'appli RMC Rémi.
Et il y a notamment Patrick qui nous écrit, Patrick est chef d'établissement, alors j'ai pas de précision si c'est en collège ou en lycée, en tout cas chef d'établissement scolaire. Et il nous dit, désolé, je n'ai malheureusement pas le temps de vous appeler, mais la chose est très complexe. La réponse autoritaire dans les établissements ne fait qu'accentuer la problématique en déclenchant des effets de groupe communautaire. Ça, c'est vrai que c'est déjà arrivé. On a vu parfois des chefs d'établissement pointer du doigt un jeune ou un jeune qui arrivait en abaya, et le lendemain, ou une jeune fille, et le lendemain, c'était pas une personne, c'était deux, trois, quatre, cinq élèves qui arrivaient dans cette tenue. Donc ça peut, ouais, aussi, c'est beaucoup plus complexe.
Et ça s'appelle comment?
Il y a aussi l'effet provocation.
Ça s'appelle comment?
La provocation.
La provocation seulement.
Ah oui, oui, absolument.
Moi, je vais presque au-delà, moi.
Ah bon?
Ah ouais.
Daniel Riolo.
Ah, tout ça montre ce que je disais tout à l'heure, un séparatisme de plus en plus prononcé, qui est à peu près visible dans tellement de strates de notre société. Que ce sont juste les prémices de quelque chose qui ressemblera d'ici quelques années
à des ados et que tu peux avoir un son des ados.
Derrière les ados, il y a des parents.
Oui.
Si les parents ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils sont contre toi.
C'est pour ça que
s'ils sont contre toi, le séparatisme ne fera que s'accentuer. Il est tellement présent dans ce pays, je veux bien qu'on continue de se voiler la face, mais à force de tout avoir accepté, le communautarisme est un mot qui est repoussé. Moi, j'entendais
Le vol intégral. Il est interdit en France. Je n'ai plus la date en tête. Ça va être 2011, quelque chose comme ça. Il y a la loi de 2009.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, nos rues sont envahies par des femmes entièrement voilées?
Pas du tout.
Le burkini, débat, tu t'en souviens, tout un été, il y a quelques années, tout un été, on a parlé que de ça, des mairies qui interdisaient le burkini. Est-ce qu'aujourd'hui, nos plages sont envahies par des centaines de femmes en burkini?
Alors, je voudrais juste répondre à Rémi par rapport à la burqa. Non. Évidemment pas, nos rues ne sont pas envahies, mais il faut pas non plus grossir le trait comme ça.
Ça dépend des quartiers.
Et puis ça dépend aussi des quartiers. Voilà.
Montre-moi un quartier, même en Seine-Saint-Denis, où il n'y a que des femmes en voile intégrale.
Et là où je rejoins Daniel, c'est qu'aujourd'hui, on récolte le fruit de décennies de laxisme. Parce que tu parles de la burqa, du voile intégral.
Le vrai problème,
il y a une loi, et la loi n'est pas appliquée.
Parce
que quand bien même il n'y aurait qu'une seule femme avec une burqa dans les rues, il faudrait le lui enlever parce que c'est illégal.
Je voudrais qu'on entende le témoignage de Salomé, qui nous appelle de Persan. Bonjour Salomé.
Oui, bonjour.
Salomé, vous êtes future prof des écoles et vous vouliez réagir sur ce débat. On fait quoi de ces élèves pour vous?
Alors, donc on fait quoi de ces élèves? Moi, c'est ce que j'ai envie de me demander, c'est qu'est-ce qu'on fait des adultes qui sont presque pires que certains élèves?
C'est-à-dire
Alors, c'est-à-dire que là, actuellement, donc nous, les futurs professeurs des écoles, nous passons les épreuves orales pour accéder à la fonction de professeur des écoles.
Ouais.
Et donc, avant-hier, donc, lundi, j'étais en épreuve et on a des jeunes femmes qui se présentent au concours, alors déjà avec le voile, qui bien sûr doivent l'enlever avant de se présenter devant le jury. Donc, bon, il y en avait pas mal, hein, quand même.
Ouais.
Les académies de Versailles et Créteil. Donc,
mais c'est pas interdit.
Non, ce n'est pas interdit, mais par contre, il y en avait deux dans la file qui refusaient complètement de l'enlever. Alors que ces jeunes femmes-là, elles sont quand même destinées à se retrouver devant les élèves.
Oui, mais est-ce que c'était interdit dans le cadre du concours d'avoir un voile ou pas? Parce que, en fait, si c'est pas interdit, je veux dire, elles peuvent le porter et rien ne dit que, lorsqu'elles vont être après dans l'éducation nationale prof, elles vont encourager ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors nous, les recommandations durant notre formation, c'est le jour du concours, vous montrez bien que vous êtes modélisant.
Le concours, il est dans l'enceinte de l'école, on est d'accord. Il est dans le contexte scolaire. Voilà. Donc on applique la loi de la laïcité, surtout à partir du concours. C'est le moment où on a démontré les choses. Voilà.
D'ailleurs, lundi,
pas l'histoire de salle, c'est l'histoire d'enceinte.
À lundi, oui. Les épreuves portées sur la laïcité, d'accord.
Voilà, entre autres, il y avait l'EPS, puis il y avait on a des mises en situation, on a deux mises en situation, et il y a forcément une des deux qui porte sur la laïcité. Donc, bon, moi, pour exemple, j'ai eu... que faire si jamais j'ai un élève qui sort une Bible de son sac? Voilà, par exemple, mais... Là, on est sur une épreuve où on va devoir traiter de la laïcité. On a quand même des candidats qui vont se retrouver devant des élèves l'année prochaine qui déjà eux-mêmes refusent d'enlever leur signe distinctif religieux. Donc là, ça va commencer à poser problème dans les années à venir.
Oui, c'est vrai que c'est un souci, mais encore une fois, rien ne dit que ces profs...
La tendance, c'est à laisser faire parce que l'éducation nationale ne veut pas de vagues, ne veut pas de conflits, et on préfère fermer les yeux. Et ils ont peur.
N'ayons pas peur de dire que c'est la peur qui...
Maintenant qu'on décapite un prof qui fait un cours sur la laïcité, évidemment qu'on a peur. Entre autres.
Et qu'on met 2 ans à avoir peur de nommer le lycée du nom de ce professeur.
Justement, ça veut dire qu'on a perdu alors.
Là, pour l'instant, on a perdu. Mais on peut réagir.
Donc c'est bien le problème, c'est qu'on a bien un problème de courage politique.
Oui.
Voilà. Il faudrait que notre ministère de l'Éducation dise de manière extrêmement ferme. Oui. Voilà. Et moi, j'en n'en démords pas au travers de la loi. On voit bien que le mode juridique de la circulaire ne marche pas. Il faut passer au niveau au-dessus. Il faut de la loi. Il faut la force de la loi.
Mais qui va faire ça?
Le ministère de l'Éducation. Il a un caractère
à peine assez fort pour diriger une bibliothèque et il est ministre de l'Éducation.
Mais il sera peut-être plus là après l'été.
Mais que ce soit très clair pour l'opinion publique française, ne sait pas prendre ses responsabilités, d'autres le prendront à sa place dans des conditions peut-être beaucoup plus conflictuelles.
Tu as raison.
Donc le mieux, c'est de résoudre maintenant.
Tu as raison.
Merci en tout cas, Salomé, pour ce témoignage. Salomé, futur professeur des écoles. Stéphanie également nous appelle du Val-de-Marne. Elle est enseignante en primaire en REP depuis 6 ans. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Et vous aussi, vous vouliez témoigner, Stéphanie. Bon, alors, j'imagine qu'en primaire, vous n'avez pas ce genre de soucis quand même.
Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Salomé. L'année dernière, nous avons une stagiaire, future professeure des écoles, qui est arrivée voilée dans l'enceinte de l'école et qui avait prévu une montée en classe avec son voile sans aucun problème. Il a fallu lui demander de le retirer.
Oui.
Je me souviens très clairement, puisque c'est moi qui ai dû lui demander de le retirer, et elle avait un espèce, vous savez, de bandana, mais qui fait quasiment toute la tête, et elle voulait même pas retirer ce bandana, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle ne voulait pas retirer ce bandana. Or, moi, dans mon école, comme nous sommes dans un quartier musulman, on a mis dans le règlement intérieur de l'école l'interdiction des bandanas pour éviter que le petit bandana devienne une façon de couvrir tous les cheveux. Notamment en grandissant. Et c'était juste appliquer le règlement de l'école, ce qu'elle a eu beaucoup de mal à faire, cette future enseignante.
Mais elle l'a fait.
Non, elle ne l'a pas fait. La directrice l'a autorisée à le garder. Et résultat des courses, le lendemain, nous avions des élèves qui revenaient avec un bandana sur les cheveux à qui nous avons dû demander de le retirer.
Et voilà.
La directrice a commis une erreur. Un bandana, excusez-moi, dans les années 80, moi j'ai été...
J'entends, mais sauf que maintenant,
tu recouvres la tête.
C'est une autre façon... de déroger à la règle.
C'est que tout est détourné.
Oui, mais j'entends ce que vous dites, Stéphanie. Mais alors, à un moment, si on doit commencer à faire une loi pour les élèves qui détournent des objets, là, on s'en sort plus. De toutes les manières, à l'école, non.
Intérieur, il est signé par les parents d'élèves, par tout le monde.
Oui, mais de toutes les
manières. En collaboration avec les parents d'élèves.
Oui, mais normalement. Stéphanie, de toutes les manières, excusez-moi, mais normalement, les couvre-chefs, quels qu'ils soient, sont interdits en classe. C'est-à-dire que, logiquement, vous ne laissez pas un élève rentrer avec une casquette.
Mais non, certainement pas, non.
On n'a pas le droit d'avoir un foulard, mais en revanche, effectivement, tu as le droit de porter un bandana. Tu as aussi des filles qui ont des serre-têtes et qui, parfois, pouvaient mettre des bandanas un peu plus larges, etc. Là, pour légiférer, ça me paraît compliqué.
Il faut se rappeler que les chefs d'établissement scolaire, que ce soit en élémentaire ou dans le secondaire, ont toute la largesse possible sur les tenues. Ce sont eux, dans le règlement intérieur, qui fixent les tenues. Si une jeune fille arrive avec une jupe trop courte, le directeur, la directrice est tout à fait en mesure de lui dire tu ne peux pas venir habillée comme ça, tu retournes chez toi et tu vas mettre un pantalon. Bon, bref, pour ce qui est des tenues à connotation religieuse, c'est la même chose.
Mais là, un bandana,
je trouve que le bandana recouvre trop ta tête. Pour moi, c'est un signe religieux. Voilà. Ensuite, s'il prend cette décision,
le directeur ou le directeur, il faut effectivement qu'il soit appuyé par sa hiérarchie, c'est ça, trop.
Mais tu peux pas commencer à légiférer sur un bandana.
Mais la législation, mais si, elle existe.
Si, c'est un marqueur.
On l'a dit tout à l'heure, elle est suffisamment large, la législation. Si le signe, la tenue laisse apparaître une connotation religieuse, on peut l'interdire.
Qui définit?
Le chef d'établissement.
Le chef d'établissement.
Okay. Voilà. Donc on laisse encore une nouvelle fois.
Il le fera pas, et oui, on s'en sortira pas.
Et c'est pour ça que je te dis qu'ensuite, il doit être appuyé par sa hiérarchie.
Tu veux savoir la vérité? Pendant qu'on débat, pendant qu'on brasse du vent, l'islamisme avance.
Voilà. Non, mais arrête, mais tu peux pas dire ça, Daniel. Tu peux pas dire ça.
L'islamisme radical ne gagne pas de terrain dans notre pays. L'islamisme radical ne gagne pas de terrain dans notre pays. Tous les rapports politiques, les rapports du Sénat, ça monte partout, dans le football amateur, auprès
Mais c'est pas le débat.
Ah, c'est pas le débat. J'ai raté le débat.
Mais tu peux pas asséner ça comme ça, en fait.
C'est pas le débat.
Le débat,
c'est pas l'entrisme religieux. C'est pas le séparatisme. C'est pas ça le débat.
C'est le fait d'une minorité.
Continuons à brasser du vent.
Notre
démocratie sera de plus en plus foulée.
Daniel, c'est le fait d'une minorité.
C'est vous qui avez raison. Brassons du vent. Continuons.
Merci Stéphanie, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va terminer avec Mehdi qui nous appelle de Montreuil. Bonjour Mehdi.
Oui, bonjour à tous.
Mehdi, vous en pensez quoi, vous, effectivement, de tous ces cas qui ont été recensés, plus de 1000 cas de cas d'atteinte à la laïcité recensés ces deux derniers mois?
Moi, j'ai pris mon téléphone parce que je suis d'accord avec la première intervention de Yaël. Si on les exclut, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est facile, là, Monsieur Riolo, de nous dire oui, c'est la faute des parents. Quand bien même, c'est la faute des parents, ils ont leur responsabilité, on peut être d'accord là-dessus. Mm-hmm. Mais ils se retrouvent à 14-15 ans dans la rue. Moi, vous avez été dans les années 90 surveillant, moi j'ai été plus de 20 ans éducateur spécialisé. Mm-hmm. Dans ces quartiers, alors j'ai entendu quartier musulman, moi j'en connais pas des quartiers musulmans, je connais que des quartiers de France, mais les quartiers musulmans j'en connais pas. Je suis sur Montreuil, j'invite qui veut à venir à Montreuil et voir ce que nous décrivons, reconquête, c'est visible. Et c'est du factuel. J'invite qui veut. On a été...
Mehdi, il faut bien parler dans votre téléphone, on vous entend mal.
Vous m'entendez mieux, là?
Non, c'est moyen.
Ah, désolé.
Là, c'est bien. Parfait.
Bon. J'invite qui veut. Alors, ces gamins qui sont mineurs, s'ils sont exclus, qu'est-ce qu'on en fait dans la rue? Moi, j'ai été longtemps éducateur spécialisé et on s'occupait de la rescolarisation. Et ces gamins, à l'époque, on ne parlait pas de faits religieux. Mais ces gamins qui étaient dans la rue, eh ben, ils ne tombaient pas dans... La vie, c'est une histoire de rencontre, surtout quand on est môme. Hein. Dans la rue, on ne rencontre pas forcément les bonnes personnes.
C'est sûr.
Nous, à l'époque, on avait en charge des gamins qui étaient exclus pour des mauvais comportements, de l'indiscipline. Mais quand ils étaient dans la rue et qu'on mettait énormément de temps à les rescolariser, eh ben, ils tombaient dans les
bras. Oui, la délinquance.
Alors, ouais. Ne faisons rien et tout va bien, monsieur. Pas de problème,
mais on fait déjà.
Non, on fait
Allez-y,
rien.
Mehdi.
Juste, je finis, vous aurez le temps de me répondre quand j'aurai raccroché. Eh bien, ils tombaient...
J'espère vous parler avant que vous raccrochiez.
Les dealers, ils les accueillaient à bras ouverts. Alors aujourd'hui, oui, on les exclut, ils sont dans la rue, ils peuvent très facilement tomber dans la radicalisation. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, moi, vous nous parliez de ces faits que vous voyez dans le collège à Champigny. Moi, je peux vous parler des quartiers... où j'étais, et quand tous les éducateurs les amenaient aux Deux Alpes faire du ski, on avait pris la décision de les ramener, nous, à Auschwitz. Je peux vous garantir qu'entre le discours, il fallait du radical, entre le discours qu'ils tenaient quand ils étaient dans leur quartier et les larmes qu'ils ont fait couler quand ils ont vu réellement là où on les avait amenés, parce qu'il n'était pas question de les emmener faire du ski, on s'était dit, au ski, il y a les enfants des bourgeois et il y a ceux de la DAS. On va les amener autre part. Et on va leur faire fermer leur gueule, pour parler clairement, en leur montrant que c'est facile de parler. Alors moi, je veux bien, je pars un peu dans tous les sens parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais on peut faire voter une loi, mais elle s'articule comment? On peut citer toutes les lois qui sont votées et qui ne sont pas appliquées parce qu'elles ne sont pas articulées. Alors le principal, les profs, ils ont peur, mais c'est du factuel. Samuel Paty, Monsieur Riolo, c'est pas un fantasme, hein?
C'est ce que dit Samuel.
En fait, je vois pas en quoi vous êtes en désaccord avec moi.
Mais oui,
en fait.
Pas du tout, en fait, Mehdi. Donc,
je vois pas ce que vous dites qui est, dans ce que je dis, qu'est-ce qui vous a perturbé, en fait?
Le seul point de désaccord, visiblement, ce serait que vous ne voulez pas admettre que convoquer les parents pour leur faire comprendre que l'enfant ne peut pas venir et ne peut pas manifester à ce point une religion radicale, c'est un problème. Si les parents comprennent pas, vous voulez qu'on fasse quoi
en
fait ?
Non, ce que te dit Mehdi, en fait, Daniel, et il va falloir conclure parce qu'on est très en retard. Ce que te dit Mehdi, c'est que le fait de laisser ses gamins dans la rue n'arrangera rien, au contraire. Et lui, il parlait de la délinquance.
Mais j'ai bien compris.
Et ce qu'il te dit, c'est qu'effectivement,
bien sûr.
C'est comme des gamins que tu mets en prison et tu te dis qu'en
et
fait,
bah, les parents accepteraient qu'ils soient dans la rue.
Et ça, j'en sais rien.
L'école, ça va être le dernier espace.
En fait, on va jamais au bout du débat. En fait, vous voulez débattre, mais on va jamais au bout de la question.
Mais parce que t'es trop long. Merci en tout cas, Mehdi, d'avoir été avec nous. On va conclure avec notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Doit-on exclure les élèves qui portent atteinte aux valeurs de la République ?
C'est le oui qui l'emporte très massivement. 91% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Il y a 91% des gens qui qui disent il faut exclure et qui se foutent de savoir s'il est recasé ou pas.
Voilà.
Okay.
Dans un instant, Anthony Morel qui nous parlera de ces 4 Français sur 10 qui ont peur pour leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Mais est-ce que ces Français, ils ont raison de s'inquiéter ? À tout de suite sur RMC.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 50 dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Midi 50, vous le savez, eh bien c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel. Et c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et on va parler d'une grosse inquiétude, Anthony, qui monte aujourd'hui en France parmi les salariés. 4 salariés sur 10 craignent pour leur emploi à cause de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets ?
Ouais, c'est une étude du Boston Consulting Group, grand cabinet de consulting qui sort ça aujourd'hui, une étude mondiale, et qui montre que les Français, alors on est les plus anxieux au monde, hein, sortez les Lexomil, là, on est vraiment le pays où on a le plus peur que nos emplois soient remplacés. Alors, c'est pas une crainte qui est complètement infondée, parce qu'effectivement, il va y avoir des pression d'emploi, c'est très clair. Ça a déjà commencé. Aux États-Unis, par exemple, il y a une étude qui a été menée auprès de 1000 chefs d'entreprise. On leur a demandé est-ce que vous commencez à utiliser ces outils. La moitié disent oui, on a déjà intégré ChatGPT dans nos process. La moitié. Et un quart disent on a déjà commencé à supprimer des tâches ou des emplois pour les remplacer par de l'intelligence artificielle.
C'est rarement les emplois les plus intéressants.
Alors, en fait, ça dépend. Il y a des choses. Alors, vous avez raison. Ça va être, par exemple, le service après-vente où la machine, globalement, pour répondre aux mails ou en ligne aux clients, ça va plus vite, c'est beaucoup plus efficace que nous. Ça va être des tâches administratives. Ça va être des comptes rendus de réunion ou rédiger des petites annonces. Ça peut être aussi écrire du code informatique. Donc, des développeurs informatiques, c'est des métiers qui sont plutôt qualifiés. On va le dire comme ça. Là, la machine peut aussi faire mieux que l'être humain. Moi, j'ai demandé. Je me suis dit, le plus simple, c'est carrément de demander à l'intelligence artificielle qui elle va supprimer, qui elle va remplacer. Oui, voilà. J'ai dit ChatGPT, quel métier tu vas remplacer ? Elle m'a fait une liste, je ne vais pas vous la faire en entier parce qu'on n'a pas le temps. Je vous en donne quelques-uns. Opérateur de centre d'appel, agent d'assurance pour les tâches de traitement d'analyse de risque, traducteur, comptable, technicien au laboratoire pour l'analyse des résultats médicaux, etc. etc., etc. Alors elle prend des pincettes en général, elle dit oui mais je ne vais pas supprimer les postes, je vais forcer certains secteurs d'activité à se réinventer, on verra.
C'est quand même pas super rassurant. Est-ce qu'il y a des métiers qui seront de toutes les manières préservés ?
Oui, on va peut-être faire cette liste-là, ça ira plus vite.
Oui, c'est bien.
Il y en a 34, a priori.
C'est tout ?
C'est ce que nous dit OpenAI, l'entreprise créatrice de ChatGPT, qui a fait une étude sur le sujet. Je pense qu'il y en a plus en vrai. Hein. Mais ils disent, ils ont fait une liste de 34 métiers qui sont pour la plupart des métiers manuels. Je vous en donne quelques-uns. Plombier, mécanicien, conducteur d'engin, encore que avec la conduite autonome, je suis pas sûr. Couvreur, des métiers où on a besoin de dextérité.
Coiffeur
aussi, exactement.
Tu vas avoir des machines bientôt, ça se trouve, tête dans un truc.
Alors, je vous montrerai ça. Robot coiffeur, ça existe. Ça existe aussi. Je vais faire le test personnellement.
Pas trop court, t'avais demandé.
J'avais demandé pas trop court, exactement. Non, mais les métiers où on a besoin de dextérité, des métiers aussi où on a besoin d'empathie ou du côté humain, ça, la machine a encore du mal à le faire. Là, par exemple.
Imagine, face à une machine, tu as des problèmes et c'est pas possible.
Tu te rajoutes 10 ans de psy après la consultation, c'est un peu ça le problème. Non mais il y a des études qui montrent que justement les métiers les plus qualifiés sont en réalité les plus menacés par l'intelligence artificielle.
Bien sûr.
Alors on peut aussi dire, et ça c'est réjouissant Anthony, que l'intelligence artificielle va créer de nouveaux métiers. Il y en a certains qui sont déjà très recherchés et c'est des débouchés évidemment très intéressants pour les futurs étudiants.
Ah bah là si vous êtes sur Parcoursup, c'est vers là qu'il faut aller, c'est vers l'intelligence artificielle. Je vous donne le métier le plus en vogue, ou vers coiffeur exactement. Le métier le plus en vogue en ce moment, vous savez ce que c'est ?
Non.
C'est prompt engineer. c'est un nouveau métier. En fait, alors on pourrait traduire ça par dresseur d'intelligence artificielle. Ah. C'est ceux qui écrivent en fait les textes pour commander l'intelligence artificielle. Genre quand vous voulez faire une requête sur ChatGPT, par exemple, vous voulez lui faire écrire un document juridique extrêmement pointu. Bah en fait, c'est compliqué. Il faut des requêtes qui sont très très précises. Et pour ça, bah, ça demande des qualifications. Et donc ces prompt engineers, ils sont payés, écoutez bien, entre 40 000 et 300 000 euros par an.
Pour écrire des textes.
Ouais. Et en plus, c'est des profils littéraires qu'on recherche plus que des profils.
Il y a des formations.
Oui, il y a des formations. Bien sûr, il y a des formations.
Non.
Bien sûr.
Non, mais il y a des formations. Il y a des écoles en France.
Absolument. Il y a des écoles qui commencent à intégrer ça dans leur formation. Alors, il y a d'autres métiers. Je vous en donne quelques-uns. Il y a le psy designer. Donc, c'est un mélange de psychologue et de designer. C'est celui qui va concevoir la personnalité de l'intelligence artificielle, sa voix, sa personnalité, etc. Ça, c'est des métiers nouveaux qui sont en train d'arriver.
C'est nouveau, oui.
Ouais. Vous avez aussi les éthiciens de l'intelligence artificielle. C'est ceux qui sont censés garantir que l'intelligence artificielle soit développée en suivant certains critères et codes moraux. Bah oui, mais c'est aussi des métiers qui sont en train d'apparaître. Donc voilà, il y a plein de choses. Et puis il y en a plein en dehors de l'intelligence artificielle. Je vous en reparlerai à une autre occasion. Mais en tout cas, voilà, faut pas tomber dans la parano. Il y a plein de métiers qui n'existent pas encore et qui vont être créés par ces nouvelles technologies.
Journaliste, animateur télé, c'est supprimé ou pas?
Bah vous savez que, alors animateur télé, je pense que non, parce que franchement, pour avoir l'ambiance comme sur le dernier débat, là, je suis pas certain qu'on puisse remplacer ça par l'intelligence artificielle. Non. On est d'accord. En presse écrite, en revanche, vous savez qu'il y a de plus en plus d'articles qui sont écrit, bâtonné, comme on dit, par de l'intelligence artificielle.
Oui, le compte-rendu de match.
Eh ben, c'est ça. Mais on a encore besoin des journalistes. Pourquoi? Pour aller chercher de l'info, pour faire du terrain, pour faire du reportage, pour faire de l'éditorial. Ça, on ne pourra, a priori, pas le remplacer. Pas tout de suite, en tout cas.
Ouf. Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, 12h50 dans Estelle Midi et en podcast, bien sûr, sur l'application RMC, sur rmc.fr et sur toutes vos applications de téléchargement. Dans un instant, on parle de la multiplication des règlements de compte et des agressions, notamment dans les villes moyennes. Sommes-nous de plus en plus violents? On attend vos réactions au 32-16.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.